avec François Beauregard et avec Camille Cusset. Bonjour Camille.
Bonjour François.
On repart chaque lundi midi, on fait le tour de la planète, puis on revient à la maison.
Mm-hmm, exactement, là on ne va pas aller loin. Hein.
On s'en va à New York pour commencer.
Voilà exactement où on a eu un beau reportage fait par le magazine Brut sur une jeune étudiante donc, qui nous raconte son quotidien dans les transports en commun new-yorkais, surtout le métro. Et donc, pendant tout le reportage, on la suit, en fait, la journaliste la suit, et on voit par quoi elle doit passer. En fait, l'étudiante s'appelle Lauren, elle a dû quitter Los Angeles pour New York pour faire ses études, et elle a beaucoup de difficultés. Elle explique dans le reportage.
Oui. Juste pour comprendre, elle est en fauteuil.
Voilà, c'est ce que j'allais dire, effectivement. D'accord. Elle ne peut pas se déplacer avec ses pieds, donc elle utilise un fauteuil roulant. Et elle explique son calvaire, c'est vraiment ses mots. Il y a un petit reportage vidéo et aussi du texte qu'on peut lire donc sur le magazine Brut. Et elle dit que 27% des stations de la Grande Pomme, donc de New York, sont accessibles en fauteuil roulant. Donc seulement 27%.
Le quart, c'est peu. À Montréal, déjà, on fait mieux, je pense.
Oui.
Petit à petit, là, il faudrait vérifier avec...
la STM, mais oui.
Mais je pense qu'il y a une volonté quand même à Montréal. On peut penser qu'à New York, les stations sont anciennes, il y en a beaucoup.
Exactement.
Mais quand même, 27%, c'est très peu. On peut imaginer comment on doit planifier son trajet en essayant de trouver une station d'entrée accessible, puis trouver une station de sortie accessible.
Ben voilà, c'est exactement ce qu'elle dit, en fait. C'est que tous les matins, elle doit consulter son application pour voir quelle station a des ascenseurs disponibles, parce que souvent, les ascenseurs sont en panne. Oh. Donc, elle doit vérifier son trajet. Elle a 3 trajets de secours, vous imaginez?
Ouf.
C'est-à-dire que s'il y en a un qui ne fonctionne pas, hop, elle prend le deuxième, puis hop, le troisième, en espérant que le troisième fonctionne. Parce que des fois, elle arrive donc sur les lieux, l'application lui a dit que les ascenseurs fonctionnent, puis elle arrive et hop, non, finalement, ça ne marche pas. Donc, on peut voir tout ça. Elle a pris un pass illimité, en fait, justement, pour pouvoir utiliser le métro un peu comme elle peut, en fait.
D'accord.
Donc, ça lui revient moins cher. Elle explique d'ailleurs dans le reportage que si elle n'avait pas fait ça, elle en aurait vraiment pour beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent.
Ouais, mais c'est elle qui s'adapte, là. C'est pas le transport.
Voilà.
C'est ça qui est terrible.
C'est exactement ça. En fait, on est dans l'adaptabilité d'une personne et non de la société, non du système qui est censé l'aider. C'est incroyable. Mais c'est une réalité. Et on apprend à la fin du reportage que New York prévoit de rendre l'ensemble de ses stations de métro accessibles seulement en 2055.
55? Alors, à ce moment-là, Lauren, qui a 20 ans, va en avoir, 53?
Quelque chose comme ça, je ne vais pas me risquer au calcul.
À New York.
Voilà, c'est ce qu'elle disait en plus, qu'elle aura fini ses études d'ici là. Mais vous disiez ça au début d'émission, c'est très vieux. Le métro new-yorkais, c'est l'un des plus vieux. Donc, ça doit prendre beaucoup de temps, en fait, de remettre tout le système de façon à ce qu'il soit accessible. Les trains sont très, très vieux. Donc, pour changer les rampes et tout le système, les portes automatiques, ça doit prendre du temps. Donc, on peut comprendre, mais
c'est désagréable.
C'est...
Parce que quand on dit 27% sont accessibles, on enlève ceux qui les ascenseurs en panne. Là.
Voilà.
Et je suis sûr que son troisième trajet doit être une circonvolution autour de Manhattan, du Bronx, Brooklyn, ainsi de suite.
Oui, ça lui fait faire un voyage.
Autour de la ville. C'est pas joli.
Mm-hmm, exactement.
En Europe, on essaie de trouver des emplois.
Oui. Ben, écoutez, c'est déjà que la population qui ne vit pas avec un handicap cherche souvent des emplois.
Ouais.
Alors là, c'est doublé pour les femmes en situation de handicap, en fait, qui sont doublement discriminées. Donc, on apprend ça dans le magazine Telegram à l'occasion de la 26e édition de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, qui commence aujourd'hui, en fait, et qui termine le 20 novembre. Deux associations, Dare Women Handicap et l'ADAPT, ont présenté des chiffres qui disent clairement que les femmes, dans leur ensemble, travaillent moins. En fait, les femmes qui sont en situation de handicap travaillent moins que l'ensemble des femmes en général. Elles sont aussi plus souvent à temps partiel que les hommes qui vivent avec un handicap. Et près de la moitié de ces femmes-là déclarent avoir subi une forme de violence sexiste ou sexuelle.
Ben ça, je vais vous dire, ça, je ne vais pas être cynique, mais je vais l'être. Ça ne me surprend pas, hein? Les femmes sont victimes de discrimination et les personnes handicapées aussi. Alors, on met l'un par-dessus l'autre et ça jette vraiment de l'huile sur le feu.
Ben
là.
Voilà.
Et des gens qui ont des comportements prédateurs vont d'autant plus choisir des victimes qui non
vulnérable.
seulement sont des femmes, mais en plus handicapées. Alors là, c'est vraiment comme s'en prendre aux personnes qui, à prime abord, semblent être les plus vulnérables. Alors, ces chiffres sont odieux.
Oui, vraiment.
Mais c'est terrible à dire, mais ils ne sont pas surprenants. Je suis désolé de dire ça, là, mais...
Non, mais c'est la réalité, c'est
ouais,
la réalité,
voilà.
Hein.
Ouais.
Mais le fait que ce ne soit pas surprenant, la question qui vient après, c'est qu'est-ce qu'on fait? En tout cas,
tout
je vais vous
fait.
Faire une petite exposé de ce que l'enquête nous sort. Donc, on a l'enquête IFOP, en fait, qui a été réalisée par le deuxième organisme, l'ADAPT, et on apprend donc que la moquerie fait partie des choses qui sont utilisées beaucoup contre les femmes qui vivent avec un handicap dans des milieux de travail. 49% des femmes interrogées donc déclarent qu'elles ont été victimes de moqueries. 35% d'insultes directement. Et que cela passe aussi par des invitations compromettantes. Donc, on peut s'imaginer toute forme de gestes déplacés et des contacts non désirés, évidemment, sur les zones érogènes. Donc là, c'est 22%
des femmes. Ça, c'est de l'agression physique directe.
Et sexuelle, exactement.
Oui, je suis d'accord avec vous. Si on n'est pas surpris de ces chiffres qui sont, pas aberrants, mais ouais, odieux, voilà. En même temps, il faut faire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a une urgence d'éducation, de mise en place de politiques d'intervention dans tous les milieux de travail. Là.
Oui, exactement. De la formation aussi des employeurs, hein, parce que faudrait qu'il y ait déjà à la base une espèce de culture, voilà, de sécurité dans les milieux de travail, et ça passe par les employeurs. Donc ce sont des chiffres qui peuvent être retrouvés donc dans l'enquête IFOP. Il y a beaucoup de choses très intéressantes. 49% des femmes en situation de handicap ont rencontré des difficultés au cours de leur recherche d'emploi, contre 38% des hommes. Donc la discrimination se joue là aussi, c'est-à-dire que les hommes en situation de handicap sont entre guillemets plus avantagés, je dis bien entre guillemets, que les femmes qui vivent avec une condition. De façon générale, leur vie professionnelle est plus compliquée. Donc, tout ça rentre en corrélation.
Et il y avait des chiffres aussi qui reflétaient à quel point c'est... Pourtant, ces femmes en situation de handicap qui ont un emploi s'investissent beaucoup dans leur travail. Même au point de s'en rendre un peu malade. Là,
La charge mentale.
Peut-être se sentent-elles fragile et doit faire preuve d'une loyauté au-delà de ce qui est nécessaire. Là. Elles sont comme prises en otage. Vous avez un emploi, vous êtes bien chanceuse. Ne le perdez surtout pas.
C'est ça. C'est peut-être un peu ça qu'on leur envoie comme message. Et aussi, elles sont satisfaites aussi d'avoir un travail. Il y avait des chiffres aussi sur la satisfaction, qu'elles se sentaient quand même heureuses d'être en emploi.
Tout à fait.
De se contenter aussi de peu, j'ai envie de dire, parce qu'elles sont aussi en danger, puisqu'on peut les attaquer avec des violences sexistes et sexuelles. Donc, des chiffres bien tristes et puis des choses à améliorer.
Comme vous dites, il faut regarder la réalité en face, parce que ce n'est pas de s'y accoutumer qui la changera. Il ne faut pas prendre ça comme étant inévitable. Il faut élever la voix.
Tout à fait. On continue. Donc,
oui, on va parler des enfants maintenant.
Oui. Ben, ça, c'est la vie, j'ai envie de dire. Pourquoi y a-t-il de plus en plus d'enfants concernés par les situations de handicap? Alors, il y a plusieurs explications. Donc, ça aussi, c'est un article qui est sorti dans le magazine Telegram la semaine dernière. Très bon papier qui explique que dans toute la France, on a des maisons départementales des personnes handicapées, donc les MDPH, et qu'elles voient leur nombre de demandes de prise en charge augmenter de mois en mois, de semaine en semaine, et que les familles doivent s'adresser seulement à ce guichet-là. Donc, il n'y a pas beaucoup de maisons départementales, en fait, par département. Donc, ça fait qu'ils reçoivent beaucoup de demandes. Et pourquoi est-ce qu'il y a une augmentation?
Oui, c'est ça. Ouais, voilà,
telle est la question.
Exactement. Ouais, la question.
Donc, ils prennent un exemple assez intéressant. C'est un département en Bretagne où ils disent que les demandes ont explosé. Et dans ce département-là, la population a augmenté. Donc, l'un des facteurs qui expliquerait l'augmentation des conditions chez les jeunes enfants, c'est l'accroissement de la population. Donc, on n'y échappe pas hein, quand le nombre augmente, eh bien, il y a aussi des cas qui tout viennent avec. Donc, dans ce territoire-là, la population elle a bondi de 5,8% entre 2013 et 2019. Ça fait 60 000 habitants en plus. Donc,
avec un guichet
chiffre,
unique qui
n'est
pas adapté.
Avec un guichet unique, exactement. Oui, bah avec tous les problèmes qu'on connaît ici et ailleurs, hein, le financement, tout ça, qui fait que les guichets ne sont pas adaptés. On a aussi un autre facteur, c'est que les dépistages ont augmenté. Ils sont plus nombreux et on les fait de plus en plus tôt dans la vie des personnes. Donc, on est capable de suivre et de savoir tôt si un enfant présente des signes de handicap. Donc, le directeur adjoint de l'ARS, qui est l'Agence régionale de santé de Bretagne, explique dans cet article qu'il y a une évolution de la société, c'est-à-dire que les mœurs maintenant font qu'on connaît mieux les différents types de handicap et qu'on va moins hésiter à effectuer des dépistages. Donc, c'est une bonne chose, mais ça augmente aussi le nombre de cas. Et dans cette situation-là aussi, on a que le nombre d'enfants qui naissent chaque année porteurs d'un handicap, il reste stable, mais ce qui augmente, ce sont ceux qui présentent un trouble du spectre de l'autisme, en fait.
D'accord.
Donc, c'est eux qui font un peu bondir les chiffres. Actuellement, on a 700 000 personnes qui sont atteintes par un trouble de l'autisme, et alors qu'au Québec, en 2014, on était à 76 000.
Okay.
Donc bon, j'imagine que ça a un peu changé, mais les chiffres plus récents n'apparaissaient pas. Donc ça, si vous avez du temps pour regarder, ce serait une bonne actualisation.
Oui.
Et le dernier facteur, ce sont les facteurs environnementaux, donc qui ne sont pas à exclure. On a des chercheurs canadiens qui avaient d'ailleurs montré qu'il y avait certainement un lien entre l'apparition du TSA et la présence de certains polluants liés à l'activité de l'homme.
Oui. Et il y a peut-être aussi eu une exacerbation du fait de la pandémie, du confinement.
Oui.
Ça aussi, pour ce qui est de la santé mentale, là,
ça joue, effectivement.
Ça a été un vecteur là, qui est pas négligeable.
Mm-hmm. Donc, c'est ça. Et puis, donc, c'était à peu près ça pour les facteurs hein, qui jouent sur ça. Maintenant, allons en Ontario, si vous voulez.
Oui, maintenant, on change de complètement d'horizon.
Oui,
hein?
Tout à fait.
On se retrouve à Blind River.
Oui, eh bien oui, où on a de nouvelles subventions. Donc ça, c'est une bonne chose. Le gouvernement de l'Ontario a accordé une subvention de 32 500 $ à la ville de Blind River pour soutenir les travaux de modernisation des zones d'utilisation publique locale. Et ça, c'est pour les aînés. C'est pour améliorer l'accès des aînés et des personnes aussi en situation de handicap dans ces espaces-là qui sont souvent malheureusement non accessibles. On revient toujours au problème de l'accessibilité. Le financement, il est offert dans le cadre d'un programme, le programme de subvention pour les collectivités inclusives qui fournit des fonds aux municipalités. Donc là, Blind River en bénéficie. Et c'est un programme donc qui est aussi à l'intention des groupes autochtones et de tous les organismes communautaires qui donc participent à l'épanouissement, si je peux dire ça comme ça, dans la société des personnes en situation de handicap et des aînés, pour qu'elles soient en sécurité dans leur quartier, pour qu'elles puissent se déplacer dans leur quartier. Donc voilà, le projet de Blind River est intitulé « Assigned seats are not our style, sit anywhere that makes you smile ». Donc en français, nous n'attribuons pas de siège, asseyez-vous où cela vous fait
du bien.
Sourire.
Bon, bien. Et Blind River, là, d'abord, faut comprendre que ce programme s'adresse, devrait cette année rejoindre 150 petites collectivités en Ontario. Mais moi, j'étais curieux de savoir, ça vient d'où ça, Blind River? Hein? Alors là, j'ai fait des recherches, Mme Cusset.
Merci.
j'ai gratté un peu à la surface. D'abord, Blind River, c'est sur le lac Huron, hein, du côté nord du lac Huron, en face de l'île Manitoulin. Alors, on parle quand même du nord de l'Ontario, pas tellement loin des Elliott Lake.
Okay.
À l'origine, ça s'appelait Rivière du Borgne, lorsque les premiers explorateurs français, coureurs des bois, ainsi de suite, chasseurs de peaux de castor, sont allés s'y installer parce que la rivière, effectivement, l'embouchure de la rivière sur le lac Huron est cachée par une sorte de promontoire. Alors, c'était évidemment une rivière qui ne se voyait pas bien,
donc
Rivière du Borgne. Alors, quand le régime anglais s'est installé, on a anglicisé, c'est devenu Blind River. Mais il n'en demeure pas moins que près du quart de la population de 3500 habitants de Blind River est francophone.
Ah.
Alors, et on compte une école élémentaire sur trois et une école secondaire sur trois à Blind River qui sont dans le système scolaire
francophone.
Français.
Ah, intéressant.
Et, là, je vous... une colle.
Oh là là. Hein,
qui est le citoyen le plus connu de Blind River? La personne qui est née et qui aujourd'hui peut parfois faire les manchettes, il s'agit de M. Claude Julien, ancien coach canadien de Montréal. Il vient de Blind River.
Ah, mais là,
j'ai donné la réponse parce que je ne suis pas sûr que vous l'auriez eu dans les
secondes qui suivent. Non, je n'aurais pas trouvé.
Voilà. Bien, nous voilà de retour plus près de chez nous, Camille.
Oui, eh ben, c'est ça, la deuxième partie de l'émission. On revient toujours sur notre terre. Donc là, on a un outil de recherche qui est proposé par Prospérité Canada. Donc c'est pour aider les personnes avec leurs prestations d'invalidité.
Ah, d'accord. Ben ça, c'est important, ça, parce que quand on a invalidité dans un terme assez large, parce que ça peut rejoindre aussi les personnes en situation de handicap.
Mm-hmm.
Parce qu'on sait que c'est pas simple. Ah, c'est retrouvé, voilà.
Il y a beaucoup de paperasse, d'informations surtout. Et puis les outils numériques, maintenant, il faut savoir les utiliser, mettons. Et parce que c'est eux qui ont le plus d'informations généralement à transmettre. Et puis c'est plus rapide d'utiliser les outils que d'aller à un guichet, beaucoup de cas.
Tout à fait. Alors, Prospérité Canada, moi je ne connaissais pas du tout.
Moi non plus.
C'est un organisme de bienfaisance qui se consacre à élargir grâce à des politiques et à des programmes novateurs.
Ben, mm-hmm.
Même si ça sonne bien. Les possibilités économiques des Canadiens et des Canadiennes vivant dans la pauvreté, ce qui est souvent le lot des personnes en situation de handicap. Et si on regarde la composition du conseil d'administration de Prospérité Canada, on s'aperçoit en fait que c'est un organisme qui est soutenu par les institutions financières. On voit au conseil d'administration des gens issus du milieu de l'investissement, des banques, ainsi de suite. Alors, c'est sûr que si on est prospère, on deviendra leur client, mais ce n'est pas en soi nécessairement un retard de leur part de vouloir nous aider. Et ils ont donc un site qui s'appelle Prospérité Canada et qui va nous... En anglais, c'est Prosper Canada.
Oui, exactement.
Prosper, voilà.
C'est bien que les institutions financières soient membres du conseil d'administration.
Oui. Ben, je pense que ça permet une certaine pérennité.
C'est ça.
L'organisme a été fondé en 1986. Et donc, on y retrouve des outils qui nous permettent d'apprivoiser des questions financières et également, dans ce cas-ci, de pouvoir se débrouiller un peu dans le dédale des prestations ou des mesures fiscales pour les personnes en situation d'handicap temporaire ou permanent. Le gouvernement fédéral a également un centre de littératie financière si vous faites des recherches et vous tombez sur le gouvernement fédéral, dites-vous que là aussi, il y a des ressources d'information qui ne sont pas, cette fois-ci, liées à des institutions financières. Et vous allez pouvoir vous y retrouver. Mm-hmm. Voilà.
Pour ce qui est de l'outil donc de Prosper Canada, il s'appelle Disability Benefits Compass.
Oui.
Donc, il permet aux personnes en situation de handicap de se renseigner sur toutes les mesures de soutien du revenu au niveau national et provincial. Donc, de les connaître déjà d'une part. Et ensuite, comment y accéder. Donc, l'autre côté le plus intéressant. L'outil, il est destiné à accompagner, bien sûr, toute personne en situation de handicap qui en aurait besoin. Il a été lancé en janvier 2022 pour aider aussi les particuliers et les fournisseurs de services communautaires qui souvent ne sont pas des spécialistes financiers, n'ont pas, vous parliez de littératie financière, donc ils n'ont pas cette connaissance-là, cette capacité de vulgarisation, parce que c'est un métier en fait, et donc ça les aide aussi à pouvoir aider les personnes à qui ils fournissent des services. Donc, on a une déclaration de la présidente directrice générale de Prosper Canada, donc Elisabeth Mulholland, qui dit chaque année, plus d'une personne à faible revenu sur cinq perd potentiellement des milliers de dollars en prestations qu'elle pourrait recevoir. C'est le plus triste. Donc, c'est un outil qui va être très utile, honnêtement, je pense, pour beaucoup de personnes.
Tout à fait. Ici, au Québec, on parle à l'antenne de Canal M, aux gens de fin autonome, entre autres, là, où on n'arrête pas de répéter que le régime enregistré d'épargne invalidité est sous-utilisé. Alors, c'est une autre façon d'y parvenir.
Ben oui. Et juste pour finir avec ça, les outils sont gratuits. Ça aussi, c'est très important et bien. Oui. Et ils sont disponibles en anglais ou en français et présentés en langage très simple, donc très, très accessible.
Abordable. Ah ben, maintenant, on se rapproche de Noël.
Oui.
Alors, il faut acheter son album de Noël.
Ben oui, surtout qu'on a de belles propositions. L'organisme communautaire, donc...
Le raccord,
oui.
Le réseau alternatif et communautaire des organismes en santé mentale de l'île de Montréal, qui a pour mission de regrouper, soutenir, outiller, représenter et tout le tralala, les organismes communautaires et alternatifs de l'île de Montréal en santé mentale. Ils font une campagne pour mousser cette campagne-là. Mm-hmm. Ils offrent un disque ou un album de Noël, Voix de Noël, volume 2, qui est en vente sur leur site, entre autres en collaboration avec la Société québécoise de la schizophrénie, et pour permettre d'avoir des chants de Noël et en même temps trouver un peu de fonds pour financer une mission qui s'appelle Répit, une heure pour moi.
Oui, tout à fait. Donc, pour le lancement de Voix de Noël 2, ce sera lundi 14 novembre, donc aujourd'hui.
C'est aujourd'hui,
à
ça.
17h. Oui, tout à fait. Donc, il vous invite à un 5 à 7 festif, donc avec la présentation de l'album et d'autres représentations musicales. Donc, c'est aujourd'hui au ministère, donc au 4521 boulevard Saint-Laurent, pour ceux qui sont... à Montréal, n'hésitez pas à y aller. Tous les bénéfices de la vente de l'album seront versés directement à la Société du Québec, la Société québécoise de la schizophrénie. Et pour les inscriptions, alors là, si vous avez un stylo tout prêt, oui, n'hésitez pas à le prendre parce que l'adresse est un petit peu compliquée, je vais vous la dire. Vous vous rendez au https://voix-noël-2-3-7-3-8-festif-o-profit-2-2-3-7.
Ben, vous savez quoi, Camille, on va mettre ça sur notre site, je pense. Hein? Parce que moi mon crayon a manqué d'encre. Voilà. Alors,
j'ai hésité, mais c'est parce que c'est très précis. Et bon, si, oui, effectivement, si vous tapez événement, vous risquez de trouver.
Ça ne marchera plus.
En tout cas.
Voilà. Ben, nous, on manque de temps. Non seulement on manque d'encre, on manque de temps. Il va falloir se laisser jusqu'à la... Dans une quinzaine, on revient le 28 novembre. Merci, Camille. Merci,
au plaisir.
Mathieu, au chronomètre. Merci Claire Guérin à la recherche et à tout le monde. Ben, je vous souhaite une belle première neige.